Merci. Bon, en général, d'ailleurs, le premier rang est toujours vide parce que tout le monde doit craindre un petit peu les postillons de l'orateur. Alors, faut peut-être venir avec un ciré, je ne sais pas. Mais... alors, j'avais proposé, quand on m'avait demandé de faire cette conférence, comme titre, la gestion entre paradigme et langage. Je vois pas très fun comme... comme titre, et puis en plus je l'ai un peu changé maintenant parce que ça a un peu évolué, et donc ça va être plutôt la gestion entre paradigme, langage et sciences politiques, et théories politiques. Bon, alors pourquoi j'ai effectivement travaillé depuis pas mal d'années sur des problématiques d'épistémologie de la gestion. On a fait un livre collectif avec Armand Hatchuel, Romain Laufer, différentes personnes qui ont travaillé là-dessus, Richard Derry aussi, qui est prof à HEC Montréal. Et un constat qui est un constat un peu récurrent, c'est que à la fois, il y a une diversité dans les pratiques de gestion, les gestionnaires le savent, une diversité qui est incomparable avec la plupart des autres disciplines scientifiques. Diversité parce que la gestion intègre tout et n'importe quoi. Il peut y avoir de la psychologie, il peut y avoir de l'économie, il peut y avoir, il y a du marketing, il y a de la comptabilité. Mais a priori, le périmètre de la gestion est structurellement ouvert puisque peut rentrer dans la gestion tout ce qui peut intéresser a priori la marche d'une entreprise ou d'une organisation économique. D'une organisation au sens large. Bon. Donc on est face à une discipline qui a des frontières structurellement ouvertes, poreuses, et ça, ça crée déjà une difficulté, parce qu'on peut mettre tout ce que l'on veut là-dedans. Donc ça, c'est un constat, et un constat régulier, récurrent, sujet de lamentation permanente, parce que c'est dommage, c'est bien dommage de ne pas avoir une discipline aussi cadrée que l'astronomie ou la botanique ou des choses comme ça. Bon, non. On est sur quelque chose de très ouvert, donc de très vague, de très mouvant. Et cette mouvance pose problème. Le deuxième constat que l'on fait souvent, c'est que en épistémologie, les gens passent leur temps à essayer de défendre l'idée que la gestion, c'est juste une science comme les autres, mais qu'il y aura un peu plus de mal que les autres à être une science comme les autres. Bon. Ça, c'est une vieille idée. Il y avait déjà ça chez Bourdieu dans les années 60, quand il faisait le métier de sociologue avec Passeron, Chambordon. L'idée que la sociologie, par exemple, était une discipline qui avait juste un peu plus de mal que les autres à être une discipline scientifique, mais elle était aussi scientifique que les autres. Bon. Ce désir de faire science, et de faire science de manière aussi scientifique que les autres, est quelque chose qui est assez intéressant pour la gestion, parce qu'il y a un côté Sisyphe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en matière de gestion, les gestionnaires n'arrivent jamais à totalement réussir dans cette ambition scientifique. Et je vois par exemple mes amis en finance, mes collègues en finance, collègues et amis un peu dépressifs actuellement, qui sont des financiers très rationnels depuis quelques années, qui sont des hyper modélisateurs, qui ont des modèles extrêmement complexes, des chaînes de Markov dans tous les sens, ne parlons pas de Modigliani-Miller et de choses comme ça, et puis qui sont un peu effondrés actuellement de s'apercevoir la dimension psychologique de la finance, du côté systémique, et donc du côté un peu imprévisible avec leurs outils actuels, et ils ont l'impression que la discipline leur échappe, alors même qu'ils aient pensé être arrivés à une sorte de consensus solide et homogène sur la scientificité ou sur un noyau de scientificité. La troisième difficulté, quand on s'intéresse à l'épistémologie de la gestion, c'est que la gestion n'est pas une discipline faite pour des scientifiques. C'est une discipline faite par des praticiens, et beaucoup pour des praticiens. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est assez simple quand vous avez une discipline comme l'astronomie, je reprends l'astronomie parce que c'est assez simple, ou la botanique. L'astronomie, elle est faite par les astronomes et globalement, de temps en temps, on a la découverte dans les médias, on apprend par les médias que telle étoile est née, a été découverte, qu'on a une nouvelle théorie sur les trous noirs ou autre, mais globalement, la production de connaissances dans le champ de l'astronomie s'adresse aux astronomes. La production de connaissances dans le champ de la gestion ne s'adresse pas aux chercheurs en gestion, pas uniquement. Elle s'adresse à plein d'autres personnes. Et elle s'adresse à plein d'autres personnes qui ont un rapport un petit peu distancié avec cette connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport pragmatique. Ça les intéresse si ça leur est utile, et sinon ça ne les intéresse pas obligatoirement. Donc on est, en matière de gestion, dans une logique qui n'est pas obligatoirement une logique de vérité, mais qui est une logique d'utilité. Et ça, en termes de production de connaissances, ça a plein d'impact au point de vue épistémologique. Et je pourrais revenir un peu sur le pragmatisme américain, parce que, évidemment, ça c'est un des points de vue centraux du pragmatisme américain. Donc pour toutes ces raisons-là, l'épistémologie de la gestion tourne un petit peu en rond dans beaucoup de textes. Alors comme il y a beaucoup à dire, on écrit beaucoup, on discute beaucoup. On constate toujours l'émiettement, on n'arrive jamais à faire autant science que les autres sciences, etc. etc. Ça inquiète toujours un peu les doctorants parce qu'ils se disent oulala, si je fais un doctorat en gestion, dans cette discipline qui elle-même ne sait pas si c'est une discipline vraiment scientifique, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire un doctorat dans quelque chose d'autre ? Bon. Ça peut être une source d'angoisse. Hein, dans les moments de la recherche. Alors, l'idée que je vais essayer de développer ici, c'est deux ou trois manières de sortir ou de poser, de faire un pas de côté sur cette notion de scientificité un petit peu de la gestion, et de faire un pas de côté pour essayer de dire d'autres choses que ces choses-là qui sont assez usuelles et qu'on retrouve dans la plupart des grands ouvrages, que ce soit ceux, pour prendre les ouvrages français, les ouvrages de Tietard, de Lofer, de Hatchuel, d'autres. Alors ce pas de côté, il va y avoir trois directions, trois pas de côté, une sorte de tango probablement, une sorte de tango épistémologique. Ça va être pas mal, ça. Le premier pas de côté, c'est la notion de paradigme, que je vais essayer de soumettre à la gestion. La notion de paradigme est assez connue, on pense la connaître pas mal, mais souvent les gens n'ont quand même pas beaucoup lu, et c'est important de reprendre un peu les termes de Kuhn. Et je vais reprendre la notion de paradigme à partir aussi de la notion de collectif de pensée, qui est une notion de Ludwig Fleck, qui lui est infiniment moins connu, et qui est un théoricien qui a beaucoup inspiré Kuhn, qui est même un peu à la source de certaines interrogations de Kuhn. Ça va être le premier point. Cette notion de paradigme nous permettra de parler un petit peu d'un aspect qui est cette notion de collectif. La gestion est un travail collectif, une production de connaissances collective, une pratique collective. Et ça a des impacts épistémologiques. Et ce collectif, ça sera le deuxième point, ce collectif, il a des langages, il porte des langages. Et il y a une dimension langagière dans la gestion qui, à mon avis, est intéressante et pas encore totalement suffisamment exploitée. On parle beaucoup de narration, on parle beaucoup de narrativité. C'est un domaine qui est très, très développé actuellement en recherche. Mais la gestion comme langage, et j'expliquerai ce que j'entends par là, me paraît intéressante et permet de résoudre certains problèmes. Et le dernier pas de côté que je ferai, c'est, en reprenant cette notion de collectif, et en la creusant un peu, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure finalement la gestion n'est pas une partie des théories politiques. Et peut-être que, alors l'idée un petit peu, abrasive que je vais essayer de développer à la fin, c'est que peut-être pour le meilleur et pour le pire, la gestion est peut-être l'une des rares, ou ce qui reste comme théorie politique pour le XXIe siècle, et c'est pas grandiose. Alors voilà à peu près ce que je vais essayer de balayer. Premier point, la gestion
comme paradigme.
Le paradigme, je rappelle brièvement, les doctorants doivent savoir ce que c'est, normalement. Un paradigme, un modèle. C'est un terme qui est grec à l'origine, mais qui est très employé en anglais. Ce terme a été largement popularisé par Thomas Kuhn, le grand historien des sciences, historien de l'astronomie et théoricien des sciences, qui a écrit en 1957 puis en 1962 deux ouvrages importants, La révolution copernicienne et La structure de révolution scientifique. Des ouvrages importants et importants par la diffusion, La structure de révolution scientifique a été vendue à plus d'un million d'exemplaires. Toute chose qui fait rêver de nos jours. Un livre d'histoire des sciences vendu autant, mais c'est un livre proprement révolutionnaire à son époque. Que nous dit Kuhn ? Kuhn nous dit que les scientifiques pensent par paradigme, c'est-à-dire par modèle de pensée, par représentation, par système de représentation du monde. Et le paradigme, c'est un modèle, et un modèle qui définit à la fois une représentation du monde, une manière d'interpréter ce qu'on observe, et qui va conditionner les recherches, les axes de développement, les axes d'investigation, qui va définir aussi ce qui est normal de penser et ce qui est anormal de penser. Et ce que dit Kuhn, c'est que le paradigme, c'est ce que partagent les scientifiques. Son raisonnement est connu, son terrain est connu depuis longtemps. Lui, il s'intéresse au passage de Ptolémée à Copernic, c'est-à-dire quand on est passé, à partir de 1543, d'une conception héliocentrée du monde, d'une conception centrée sur la Terre du monde, hein, qui est la conception de Ptolémée, enfin de Ptolémée et d'autres, hein, et repris par l'aristotélisme du catholicisme. Et donc on est passé à l'époque de Copernic, à la théorie de Copernic. Et la théorie de Copernic, effectivement, le soleil était au centre et les étoiles tournaient autour. Donc ce changement de vision du monde, au sens propre du terme, est un changement qui a eu lieu entre 1453 et puis après avec Tycho Brahe, d'autres, Galilée, etc., entre 1543 et 1620, 1630, mettons à peu près la mort de Galilée. Et donc, tous les scientifiques, tous les astronomes ont changé petit à petit leur vision du monde, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, plus ou moins de déchirement. Et donc, l'idée de Kuhn, c'est qu'il y a une lutte politique des paradigmes, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion à un moment donné de chercheurs autour d'un modèle, et puis il y a un nouveau modèle qui va supplanter le modèle précédent. Et cette supplantation, cette suprématie, ce combat du deuxième modèle se fait sur un mode politique. Kuhn est un penseur des années 60, la structure de la révolution copernicienne, et surtout la structure de révolution scientifique date de 62, on est en pleine période des années 60 où tout est politique, et Kuhn va finalement dire que la recherche scientifique est elle aussi politique, au sens où c'est un modèle politique. Cette notion de paradigme en gestion, elle paraît assez banale. On peut très bien considérer le taylorisme comme un paradigme. Un paradigme qui a été dominant à certains moments. On connaît le développement du taylorisme. On connaît après la lutte contre le taylorisme faite par l'école des relations humaines, de Mayo, Rutlisberger et d'autres. On a vu en gestion une succession de modes de pensée, de conception de l'entreprise, de conception de ce qui est souhaitable au travail, de ce qui est souhaitable dans le management des individus. Et cette succession peut être abordée comme une succession de paradigmes. Ça, c'est quelque chose finalement qui est relativement simple. Ce qui est un peu plus intéressant autour du paradigme, c'est que le paradigme est un consensus d'un milieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Y a-t-il consensus d'un milieu dans la gestion, à un moment donné, sur telle ou telle chose ? Il semblait qu'il y avait un consensus à la SEC sur Madoff, par exemple. Est-ce que c'est un paradigme? Ça se discute. Probablement pas. Mais il pouvait y avoir un consensus, par exemple, économico-politique, pour considérer que le modèle des subprimes, ou tout ce qui avait été fait, ou le modèle de régulation, ou plutôt le modèle de l'absence de régulation qui a permis les subprimes, était quelque chose d'acceptable. Bon. On peut très bien appréhender la succession des normes IFRS, des normes de Bâle II, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers financier, comme des changements de paradigme sur ce qu'il est bon ou pas bon de faire en termes de gestion prudentielle des activités financières, des institutions financières. Mais il y a une complexité propre à la gestion, c'est que ce paradigme n'est pas quelque chose que partagent uniquement les scientifiques, contrairement au paradigme chez Kuhn. C'est quelque chose qui est partagé de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire par tous les acteurs économiques, et comme les acteurs économiques, c'est aussi vous et moi, c'est-à-dire par un peu tout le monde. Et donc là, on est dans des modèles ou dans des paradigmes qui sont des paradigmes non pas ésotériques, c'est-à-dire réservés à un petit groupe, mais exotériques, c'est-à-dire qui peuvent être accessibles à un collectif très large. Et donc c'est le premier point un peu qui m'amènera à développer cette dimension politique après, c'est que le modèle des paradigmes, si on l'applique à la gestion, est un modèle qui finalement déborde largement le cadre du chercheur pour aller vers les lieux de la gestion, c'est-à-dire les entreprises, leurs dirigeants, mais aussi leurs collaborateurs, et puis ceux qui sont assujettis ou ceux qui consomment, etc., et finalement une bonne partie du monde économique. C'est pour ça que, par rapport à cette notion de paradigme, il me paraît intéressant de prendre l'idée, chez Fleck, de collectif de pensée. Alors, Ludwig Fleck, je vais le présenter brièvement parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a écrit un seul livre, lequel livre vient d'être traduit en français il y a 2 ans, mais enfin il avait été traduit en anglais dans les années 79. Qui est Ludwig Fleck? C'est un médecin né en 1896 à Lvov, en Ukraine, et qui est mort en 1961 en Israël. Il a fait un seul livre, il s'est intéressé à l'histoire de la médecine, et plus précisément à l'histoire de la syphilis, c'est-à-dire à l'histoire du concept de maladie autour de la syphilis, donc à l'histoire à la fois de la peinture du tableau clinique de la syphilis, et puis à l'histoire aussi du diagnostic et des solutions apportées à cette maladie. Et à partir de cette histoire-là, de cette monographie-là, il a fait un bouquin qui est absolument génial, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Genèse et développement d'un fait scientifique ». C'est paru aux Belles Lettres. Et ce bouquin expose une théorie. Et cette théorie s'articule sur 2 choses, la notion de collectif de pensée et la notion de style de pensée. Et cette notion de collectif de pensée et cette notion de style de pensée, ces 2 notions me paraissent très intéressantes pour la gestion. Le premier point, c'est que pour Fleck, l'activité scientifique a une inscription sociale forte. Hein, je le cite. Tout acte cognitif est conditionné socialement. Et quand il parle de tout acte cognitif, il fait le lien ou un continuum entre, finalement, la connaissance ordinaire et la connaissance scientifique. On verra un peu plus loin qu'il considère que la connaissance scientifique n'est finalement une sorte de connaissance peut-être un petit peu purifiée, mais elle n'est pas en rupture radicale par rapport à la connaissance strictement ordinaire. Mais si tout acte cognitif est un acte collectif, ça veut dire que finalement un fait scientifique n'est pas découvert par une personne, mais émane d'un collectif. Même si la personne qui découvre a l'impression de découvrir elle-même la chose. Okay. Donc c'est le premier, le bouquin date de 1935, j'ai oublié de le dire, donc c'est le premier quand même en 1935 qui dit que finalement il n'y a pas de découverte scientifique, il n'y a que des constructions collectives de faits scientifiques, parce que le chercheur, il cherche à l'intérieur d'un certain milieu, il est formé par des personnes, il interagit avec d'autres personnes, et même sans s'en rendre compte, finalement, il est dans une interaction permanente, ce qui fait que la production est une production qui a des dimensions collectives et sociales. L'autre chose qui est importante dans la notion de collectif de pensée, c'est que, le dit très précisément, un individu, je le cite, fait précisément partie de plusieurs collectifs de pensée. En tant que chercheur, en tant que membre d'un parti, d'une classe sociale, d'un pays, d'une race, il fait aussi partie d'autres collectifs. C'est-à-dire que l'individu, et ça il est le premier à mon avis à le dire, le chercheur n'est pas uniquement chercheur. Il est aussi citoyen, il est aussi issu d'une famille, d'un milieu, il a une trajectoire personnelle, il vit à une époque donnée. Et tout cela va se retrouver aussi dans sa recherche. Et donc on a une multiplicité de collectifs de pensée. Et chaque collectif de pensée va générer un mode de pensée. Et le chercheur, il est au croisement de ces différents collectifs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet d'appréhender l'émiettement de la gestion. La gestion, c'est une multiplicité de collectifs de pensée. Vous pouvez avoir des collectifs de pensée qui sont liés, par exemple, à des cultures d'entreprises spécifiques. Si vous travaillez sur IBM, ce qui a été fait par exemple par Hofstede dans les années 60-70, vous avez un collectif de pensée qui est la culture IBM. Mais à l'intérieur de la culture IBM, vous avez des ingénieurs. Des ingénieurs qui ont des formations dans certaines institutions. Et si c'est un polytechnicien ou si c'est quelqu'un qui a été formé au Japon, peut-être que probablement la culture n'est pas la même, le collectif de pensée et donc la manière de penser n'est pas la même. Et enfin, vous avez tous les autres éléments, l'identité nationale, ça peut être des éléments religieux, ça peut être, etc. Et donc, en matière de gestion, la production de connaissances doit intégrer le fait que tout acteur, tout producteur, doit à la fois lui-même participer à plusieurs collectifs de pensée, mais son objet lui-même est traversé par plusieurs collectifs de pensée. Alors, je suis en train d'essayer de voir. J'ai pas repris la définition précise du collectif de pensée. Il dit c'est une communauté de personnes qui échangent des idées et qui interagissent intellectuellement. Mais il y a plus que ça dans le collectif de pensée, j'ai pas la citation là, c'est-à-dire le collectif de pensée, c'est aussi une manière homogène de penser. Et donc c'est quelque chose qui a à voir avec le paradigme. Le collectif de pensée porte des paradigmes. Kuhn s'est beaucoup inspiré de Fleck. Et Kuhn le reconnaît dans la préface à l'édition de 79 de Ludwig Fleck. Il a beaucoup pris chez Fleck. Donc le collectif porte des paradigmes. Les paradigmes sont portés par un collectif. Quand vous êtes dans un laboratoire, quand vous êtes dans un groupe de recherche, etc., c'est un collectif de pensée qui a tendance à porter un paradigme, une conception de la recherche, une conception de ce qui est important, une conception des programmes de recherche, pour parler comme Lakatos, spécifique. Et pour lui, la production de connaissances, et il faut impérativement l'appréhender à travers ces collectifs de pensée, parce que sinon, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il a une très jolie métaphore, il dit, vouloir chercher, regarder l'activité d'un scientifique sans regarder le collectif, c'est vouloir rendre compte d'un joueur de foot sur un terrain sans regarder toute l'équipe. Ça n'a aucun sens. Parce que le joueur de foot, il interagit en permanence, effectivement, par rapport aux autres et par rapport au jeu qui se fait. Okay. Ça Ça veut dire aussi, et la métaphore du jeu de la partie de foot est intéressante, ça veut dire aussi que le processus de production de connaissances n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où il y a des ruptures, où il y a de l'imprévisible, où il y a du surgissement, où il n'y a pas que choses où on a un programme de recherche qui donne des résultats, etc. On n'est pas du tout dans une linéarité de la production intellectuelle. La notion importante qu'il y a chez Fleck à partir de là, et qui ressemble celle beaucoup au paradigme, c'est la notion de style de pensée. Le collectif est porteur d'un style de pensée. Mais j'aime bien cette idée de style de pensée. Pourquoi je l'aime bien et pourquoi elle est complémentaire de la notion de paradigme ? Parce qu'un paradigme, c'est un modèle, c'est une vision du monde. C'est la vision de Copernic. Le soleil est au centre, la Terre bouge selon trois mouvements, un mouvement annuel, un mouvement sur elle-même, et puis l'axe lui-même bouge. Ok, ça c'est Copernic. Ça, c'est un modèle d'explication du monde. Mais le style de pensée, c'est plus que ça. C'est la manière de regarder le monde avec ce modèle. C'est la manière d'appliquer ce modèle sur de nouvelles théories. C'est la manière d'envisager de la recherche à partir de ce modèle. Je peux très bien dire que le taylorisme, par exemple, est un paradigme. Ça me paraît assez défendable. Mais c'est aussi un style de pensée. C'est-à-dire, c'est une manière d'appréhender l'organisation du travail, d'appréhender les relations hiérarchiques entre contremaîtres et ouvriers, d'appréhender la connaissance, qui doit être bien séparée ou plutôt prise par la hiérarchie aux dépens de l'ouvrier, etc. C'est un style de pensée, c'est une manière de penser. Et donc cette notion de style de pensée me paraît plus riche et plus dynamique que le paradigme, parce que le paradigme n'est qu'un modèle. Il ne nous dit pas comment on vit le modèle. Alors que le style de pensée nous dit comment on vit le modèle, comment on vit le paradigme, comment on va l'appliquer, comment on va l'envisager, comment dans le quotidien on va le mettre en œuvre. Et là encore, pour la gestion, cette notion de style de pensée me paraît centrale. Parce que la gestion est faite largement de style de pensée. Dès que vous travaillez, par exemple, sur de la comptabilité, que vous regardez ou vous discutez avec des gens qui ont travaillé sur l'histoire de la comptabilité, dès que vous travaillez sur de l'histoire de l'économie ou sur de l'histoire économique, là, vous êtes confronté à des styles de pensée, des collectifs qui portent des styles différents. Si vous êtes dans les sciences sociales, en sociologie, n'en parlons pas. Vous avez des collectifs forts, antagonistes, et ça, c'est historique. Dans les années 50, il y avait deux personnes principalement qui dirigeaient des thèses de sociologie à Paris. Il y avait Raymond Aron et Georges Gurvitch. Il y en avait un qui était plutôt de droite, l'autre très à gauche. Il n'était pas question de parler de l'un à l'autre. Il n'était pas question de citer l'un dans les travaux de l'autre ou de ne pas citer chacun quand on travaillait avec quelqu'un. Donc là, on était dans, je dirais, la caricature du collectif qui porte un style de pensée spécifique. Et là aussi, on a une dimension très importante qui est la prévalence de la dimension du collectif. Ça, c'est le premier pas de côté, donc à travers la notion de paradigme et de collectif et style de pensée qui nous permettent d'appréhender peut-être un peu différemment l'émiettement de la gestion et son côté exotérique, c'est-à-dire le fait que la gestion ne soit pas une discipline faite uniquement par des chercheurs pour des chercheurs. Ce n'est pas une production de connaissances qui s'adresse principalement à des chercheurs, à ceux qui la produisent, contrairement à la physique quantique ou autre. C'est une production de connaissances qui s'adresse à des gens qui ne la produisent pas. C'est d'ailleurs, de la part, pour certains professeurs de gestion, un vrai drame. Le deuxième pas de côté, ça va être la notion de langage. Pourquoi ? Je pense que une des caractéristiques de la gestion, des différentes disciplines ou des différents champs de pratique de la gestion, c'est que ces différents champs mélangent à la fois des notions de paradigme portées par des collectifs de pensée avec des styles de pensée, et puis des éléments de langage. Par exemple, la comptabilité, je peux très bien l'appréhender comme étant un langage. Qu'est-ce qu'un langage ? Je ferai simple, un système symbolique qui permet, dans un consensus, de désigner le réel. Ceci est une chaise pour nous. Nous connaissons le mot chaise et nous sommes d'accord sur le fait que ceci est une chaise. Bon, après, on peut être surréaliste et considérer que telle chose n'est pas une pipe, etc. Mais le langage, justement, est là pour ne pas être surréaliste, il est là pour nous permettre l'échange. Beaucoup de disciplines en gestion sont soit du côté du langage, soit du côté du paradigme, et quelquefois sont entre les deux. Il y a des moments, si je reprends un exemple comme la comptabilité est langage dans sa pratique. C'est-à-dire qu'on va définir que telle opération, ça va se mettre au débit, au crédit, j'ai des comptes qui sont numérotés, etc. Ça, ce sont des éléments de langage qui me permettent de dépeindre le réel. De même que la notion de compte d'exploitation, etc., ce sont des objets construits que l'on a nommés et qui vont renvoyer à des situations réelles. On peut même dire, d'ailleurs, que la comptabilité est un langage qui permet de décrire de l'histoire d'un point de vue économique. Puisque la comptabilité est fondamentalement histoire, elle va saucissonner des flux économiques selon des périodicités mensuelles, trimestrielles, annuelles, etc., et rendre compte de cette périodicité-là. Mais la comptabilité n'est pas que ça, elle est aussi, par exemple, règle prudentielle. Et là, on va être du côté du paradigme. Donc une des difficultés épistémologiques, strictement, c'est que d'un côté, on est dans le langage, et donc on se met d'accord sur un système symbolique pour dépeindre le réel. De l'autre côté, on va interpréter ce que l'on voit et avoir une théorie de ce système réel. Une théorie qui va être quoi ? Une théorie de l'action collective, de ce qu'il faut faire pour que ce système réel aille plutôt bien, plutôt mieux, pour que le rapport qui est fait, le rapport comptable qui est fait, soit fidèle par rapport à la réalité, etc. On peut en finance, en comptabilité analytique, en consolidation, produire des règles de bonne gestion, de bonnes pratiques. Et là, on est du côté du paradigme. Et on est dans deux univers épistémiques qui sont assez différents. Parce que le langage est un système symbolique. Un système symbolique, et comme tout système symbolique, à chaque fois qu'on a des choses nouvelles, on va créer de nouveaux mots, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux termes pour décrire ce nouveau. La notion, si vous interrogez un banquier du 19e siècle, des notions de ratio prudentiel, etc., sont des notions qui ne lui diraient rien parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Il y a plein de choses nouvelles qui existent. Alors, ne parlons pas des constructions encore plus nouvelles que peuvent être, par exemple, des produits dérivés dans les banques, etc. Donc, il y a de nouveaux objets qui existent, qui nécessitent de nouveaux termes, de nouveaux mots. Et là, on est dans un univers de langage. Cet univers de langage pose des problèmes très spécifiques, très particuliers. Qui crée les termes ? Comment se crée le consensus sur les termes ? À qui s'adresse-t-on ? Quelle est la bonne grammaire ? Y a-t-il une grammaire globale qui émerge ? Est-ce que les nouvelles normes internationales qui ont tendance à se fusionner, si je prends l'exemple encore dans l'univers bancaire de Bâle II, qui sont donc les nouvelles normes qui vont renforcer et obliger les banques à être de plus en plus prudentes en intégrant différentes catégories de risques. Ces normes-là, comment elles sont construites ? À qui s'adressent-elles ? Est-ce qu'elles deviennent de plus en plus globales ? Est-ce qu'elles vont s'imposer à tout le monde ? Va-t-on arriver vers un langage universel de la gestion ? Ça, ce sont des questions, effectivement, posées par dimension de langage de la gestion. La dimension de paradigme, on l'a déjà vu. C'est comment adhère-t-on à ces paradigmes ? Comment ces paradigmes se succèdent-ils ? Comment interagissent ces collectifs de pensée pour défendre leur paradigme, leur bout de gras, leur point de vue ? Et par exemple, quand on est confronté à des catastrophes comme la crise financière et économique actuelle, bah, c'est l'occasion de remettre en cause plein de paradigmes. À tort ou à raison. Effectivement, c'est toujours l'époque, quand il y a une crise économique liée à de la dérégulation, où tout le monde ressort ses livres de Keynes, voire de Marx. Mais à tort ou à raison, parce que Keynes, bon, c'était à une autre époque, dans un autre contexte, et Marx, n'en parlons pas. Donc, on a, dans cette dimension langagière, on a plein de questions spécifiques qui se posent, et qui sont des questions qui se posent actuellement à la gestion. Alors, il y a une relation dialectique entre paradigme et langage. Pourquoi ? Parce que le paradigme va susciter, ou les paradigmes vont susciter, les styles de pensée vont susciter des mots spécifiques, des termes, des langages, et les termes en eux-mêmes vont renvoyer ou sous-entendre ou supposer des paradigmes, des modèles en eux-mêmes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en matière d'analyse épistémologique de la gestion sur cette appréhension de la gestion comme langage. Parce que, alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un tournant linguistique en gestion comme il y en a eu un en philosophie dans les années 60, mais quand même, alors, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui sont faites, il y a des gens qui travaillent sur la rhétorique, mais la rhétorique, c'est toute une partie du langage, et la rhétorique, bon, par exemple, c'est bien, Romain Loffert travaille sur la rhétorique et le marketing, ce qui est un espace, je dirais, naturel pour la rhétorique. Mais appréhender toute la gestion sous l'angle du langage, et y revenir aux théoriciens du langage, que ce soit Benveniste, Saussure, Austin, etc., la dimension illocutoire, bon. Là, il y a beaucoup de choses encore à faire, et à mon avis, beaucoup de choses à faire qui nous permettraient de voir aussi certaines évolutions qu'on ne peut pas appréhender autrement. Cette notion de langage est aussi une dimension collective, parce que le langage, c'est quelque chose, hein, pour reprendre l'expression de Gadamer, c'est le lieu où moi et autrui fusionnons. C'est dans la langue que nous communiquons, que nous pouvons être dans quelque chose d'autre qui est l'espace de la communication. Et donc, tous ces éléments, que ce soit le collectif de pensée, le paradigme partagé par des personnes, le style de pensée, le langage, nous renvoient à une dimension collective de la production de connaissances. Et non seulement une dimension collective de la production de connaissances, mais une dimension collective de la réception de ces connaissances. Et ça m'amène un petit peu à la troisième, au dernier point, au troisième pas de côté, et un peu, qui sera un peu le dernier, qui est la dimension politique appréhendée en tant que telle. Pourquoi ? D'une manière très très simple, beaucoup de gens considèrent actuellement que la gestion est une théorie de l'action collective en milieu économique, ou milieu organisé au sens large. Quand je dis milieu économique, ça peut être aussi l'armée, ça peut être aussi une église, ce sont aussi des organisations avec des problèmes de gestion, de management, de plein de choses. Donc la gestion concerne tout ce qui est l'action collective, un milieu économique ou structuré, organisé. Bah, une théorie de l'action collective, la principale ou les principales théories de l'action collective que l'on connaît, sont les théories politiques. Je dirais traditionnellement. Donc, si on poursuit un petit peu cette idée-là, on aboutit très vite à l'idée que bah, peut-être que la gestion serait la théorie politique qui s'est développée ou qui se développe ou qui reste ou qui perdure ou qui demeure, je ne sais pas, actuellement. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent militer pour justifier cette position. Et c'est une position que je ne trouve pas obligatoirement souhaitable. Hein, quand je dis que c'est peut-être une théorie politique, je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais déjà, les éléments qui le justifient. Eh bien, la gestion, effectivement, concerne de plus en plus tous les acteurs. C'est-à-dire que nous travaillons, je ne parle pas uniquement des pays occidentaux, hein, mais nous travaillons dans des organisations, nous sommes finalement assujettis à des organisations de type économique, nous sommes embauchés même dans des institutions comme des universités, mais qui ont des contraintes financières ou qui au contraire développent une autonomie financière, bref, qui ont des transformations de gestion. Et on déplore, ça c'est assez classique, depuis longtemps, la domination de l'économique sur le politique. Et cette domination de l'économique au sens large sur le politique, dans cette économique-là, il y a aussi cette domination du gestionnaire. C'est-à-dire, quand une entreprise ferme une usine, l'impact politique est évident. Bon. Donc, la prévalence de l'économique sur le politique que l'on constate et que l'on déplore depuis un certain temps est un des éléments qui peut nous mettre la puce à l'oreille sur cette dimension politique, de théorie politique de la gestion. Le deuxième élément, en inverse, c'est le champ de préoccupation de la gestion. On parle beaucoup de gouvernance. La gouvernance, c'est quand même un terme qui ressemble à du politique. On parle de responsabilité sociale de l'entreprise. On parle de développement durable, on parle de plein de choses qui, si on les met bout à bout, nous renvoient à différentes facettes de choses qui devraient être ou qui sont pleinement de l'ordre du politique. Alors pourquoi je disais que c'est pour le meilleur et pour le pire? Parce que, évidemment, le côté meilleur peut-être, c'est que il y aura peut-être moins de violence totalitaire du seul fait de la gestion, parce que la gestion, ce qu'avait assez bien vu d'ailleurs Boltanski et Thévenot, même si je n'étais pas d'accord avec leur ouvrage sur le nouvel esprit du capitalisme, la gestion est plastique, elle n'a pas de théorie a priori. Et ce qui était un petit peu absurde dans leur ouvrage, c'est de mettre en parallèle capitalisme et communisme, parce que autant le communisme est une théorie véritablement politique, économique, philosophique, qui a une solidité, une entité, une homogénéité voulue par son ou ses fondateurs, autant le capitalisme n'a pas de théorie a priori. Il y a plusieurs théories, il y a un foisonnement de points de vue, etc. Mais il n'y a pas d'homogénéité. Je dirais qu'un échange au fin fond de la brousse entre du troc et de type capitaliste. Et il n'y a aucune théorie derrière en amont. Donc il y a une dissymétrie. Et cette dissymétrie, à mon avis, ils ne l'ont pas appréhendée. Mais ce qu'ils ont appréhendé, c'est qu'effectivement, le capitalisme, n'ayant pas de théorie initiale, volontaire, prévue, unifiée, n'a pas non plus le risque totalitaire, ou pas tout à fait le même risque totalitaire, de faire des drames comme on a pu en connaître au XXe siècle. Mais il y a quand même une violence... secondaire de la gestion liée à ce que l'on voit aux États-Unis actuellement, ce que l'on voit un peu partout. Et cette violence n'est pas obligatoirement moindre, mais elle est plus diffuse. Et puis elle n'est pas voulue au sens d'une idée première. Elle n'est pas appréhendée dans une unité. Le pire, maintenant, c'est quoi? C'est que si la gestion n'est plus que la seule théorie politique qui reste dans le monde moderne, là, pour le coup, on sera dans un monde qui sera dramatiquement désenchanté. Parce que je suis de ceux qui pensent que les métarécits qui ont eu posé plein de problèmes, enfin, les métarécits, je reprends le terme de Lyotard, c'est-à-dire ces grands récits qui promettaient plein de choses, à tort ou à raison, mais enfin, qui promettaient plein de choses, avaient au moins comme fonction de créer un espoir, de créer un élan, de créer quelque chose qui pouvait être de l'ordre d'un projet grandiose. Et effectivement, si la gestion n'est plus que le seul horizon de projet d'un monde qui n'a plus d'autres alternatives politiques, alors là, je pense qu'on pourrait être dans un monde qui serait, pour prendre la terminologie de Weber et de Gaucher, largement désenchanté.